VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h à Bamako. Le Mali a célébré hier la fête du Ramadan qui consacre la fin du carême musulman. Cette fête a été mise à profit par le chef de l'État malien pour appeler ses compatriotes à l'union sacrée. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a beaucoup fait allusion à son projet de révision constitutionnelle qui lui tient à cœur. Kassim Traoré.
La fête du Ramadan marque les 29 ou 30 jours de jeûne chez les musulmans, d'où son importance.
Tout effort mérite une récompense. Donc cette journée est la récompense de ceux qui ont jeûné convenablement.
Les différents sermons prononcés par les imams étaient axés sur la cohésion, le pardon. Ils ont surtout imploré Allah pour le retour de la paix au Mali. Ce souhait des imams correspond aux aspirations de certains fidèles musulmans.
Ça permet de montrer encore l'une des valeurs de l'islam. C'est-à-dire les cadeaux qu'on fait aux enfants ou aux frères ou aux voisins, c'est pour montrer l'amour.
Le président Ibeka, qui a prié au niveau de la grande mosquée de Bamako, a demandé aux Maliens plus de concorde, d'union et d'entente entre les fils de son pays.
Les gestions d'État sont des gestions temporaires. Et si quelqu'un perturbe aujourd'hui, fait en sorte que le pays ne puisse pas avancer, ne se relève pas. Mais demain, c'est lui qui sera là, aura des difficultés. C'est pas souhaitable. Et l'ensemble malien sera en difficulté. Ce n'est pas souhaitable. Mais troubler son pays, le mettre en difficulté, l'en donner l'image la plus détestable au monde entier, n'est pas seulement la meilleure façon de prouver son amour du pays, son amour du Mali. Je souhaite que chacun d'entre nous fasse un effort sur soi de compréhension, de hauteur pour s'élever à la hauteur des situations du Mali.
Ibeka, qui fait allusion à son projet de révision constitutionnelle, a fait savoir que sans référendum, l'accord issu du processus d'Alger ne pourra pas être appliqué. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, les hôpitaux manquent cruellement de sang pour les malades. En plus d'être insuffisantes dans les grandes métropoles, les poches de sang sont introuvables dans l'arrière-pays et parfois dans les localités situées à la lisière de l'axe Yaoundé-Douala, la route la plus meurtrière au Cameroun en termes d'accidents. Notre correspondant au Cameroun s'est rendu dans la localité de Mbankomo, située à 22 km de Yaoundé, où les victimes d'accidents sont de plus en plus nombreuses et où la population est dans le désarroi. L'hôpital de district est sous-équipé. Reportage Emmanuel Jules Ntap à Yaoundé.
L'hôpital de district de Mbankomo n'a pas de poche de sang. Au sein de la population, cette réalité est connue de tous et est considérée comme un grave préjudice sanitaire pour la localité. Monsieur Ondoa est autochtone de Mbankomo.
S'il y avait un hôpital de référence en Mbankomo, beaucoup de malades seront transférés ici.
Quand quelqu'un est blessé, si on a besoin,
on le transporte directement à Yaoundé.
Qu'en transportant quelqu'un, il meurt chemin faisant.
Sans doute, s'il est décidé que tu dois mourir, la mort vient de Dieu.
Comme dans plusieurs localités de l'arrière-pays du Cameroun, le transport lucratif par moto est devenu aussi incontournable en Mbankomo, avec ses corollaires bien évidemment, au nombre desquels les accidents graves et les victimes de ces accidents se comptent très souvent parmi les conducteurs eux-mêmes. Ceux-ci ont donc mis sur pied une mutuelle pour sauver les leurs, faute de possibilité de transfusion sanguine à l'hôpital de district de Mbankomo.
Il y a la solidarité du corps. On l'amène à l'hôpital et puis on
va... À Yaoundé aussi, à Mbankomo.
On a une équipe pour l'accompagner au niveau de Yaoundé.
En outre, la population a accru ici au fil du temps. Pour les femmes enceintes et les enfants malades, le danger est permanent dans la localité de Mbankomo. Une résidente témoigne.
Mon enfant avait l'anémie sévère. Il fallait qu'on fasse une transfusion à l'immédiat. Ici à Mbankomo, ce n'est pas possible. Seulement en cas d'opération, on peut prendre le sang là à Yaoundé.
Malheureusement, même à Yaoundé, les poches de sang ne sont pas à la portée de tous. Le Cameroun, en 2016, n'avait que 82 661 poches de sang sur les besoins estimés à 400 000 par an. Autre difficulté, et pas de moindre, les rares poches de sang coûtent cher. Et pour obtenir l'une d'elles, il faut en outre venir avec deux donneurs. Ce qui complique le processus de transfusion sanguine au Cameroun. Explication avec Dr Noah Oona, secrétaire permanente du programme de transfusion sanguine.
Nous ne vendons pas le sang au Cameroun. Nous avons évalué la poche de sang à environ 50 à 60 000 francs. Ça, c'est le coût réel. Et vous voyez bien que dans les formations sanitaires, en fonction des plateaux techniques, ça variera entre 10 000 et 25 000, que nous trouvons déjà assez élevé. C'est pour cela qu'il faut un nouveau système national.
Ce nouveau système s'appelle le plan stratégique national de transfusion sanguine. sanguine, validée le 14 juin 2017, une bonne nouvelle surtout pour les populations de l'arrière-pays Yaoundé. Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En visite en Afrique du Sud, le président congolais Joseph Kabila a assuré hier que le dialogue était permanent dans son pays en vue d'organiser des élections. Il a ajouté que des objectifs de ce dialogue sont d'organiser donc des élections en tant que nation, parti politique et société civile. Cependant, Joseph Kabila n'a pas précisé si ce scrutin sera organisé avant la fin de l'année, comme le préconise l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord signé à la fin de l'année 2016 a entériné une décision de la Cour constitutionnelle qui maintient M. Kabila au pouvoir au-delà de la fin de son mandat qui s'est terminé le 20 décembre. Le gouvernement tanzanien a menacé d'arrêter tous les défenseurs des homosexuels et promis d'expulser les étrangers qui militeraient pour leurs droits, a rapporté aujourd'hui la presse locale. Le gouvernement tanzanien avait menacé au début de l'année de publier des listes d'homosexuels faisant commerce de leur corps avant d'y renoncer par la suite. L'homosexualité est punissable en Tanzanie de très lourdes peines de prison, mais c'est seulement récemment que les autorités ont adopté une rhétorique anti-gay. L'alliance de droite apparaissait ce lundi comme la grande gagnante des élections municipales partielles en Italie. Les partis de Silvio Berlusconi, Forza Italia et de Matteo Salvini, la Ligue du Nord, l'emportant dans la quasi-totalité des 22 villes concernées par le vote. À l'issue du second tour qui s'est tenu dimanche dans une centaine de communes, le centre-gauche amené par le Parti démocrate au pouvoir de l'ancien chef du gouvernement Matteo Renzi enregistre en revanche une cinglante défaite à quelques mois des élections législatives. La première ministre britannique Theresa May a signé aujourd'hui un accord de gouvernement avec le parti nord-irlandais DUP après près de trois semaines après les législatives au cours desquelles elle avait perdu sa majorité absolue au Parlement. Des combattants syriens soutenus par les États-Unis se sont emparés d'un quart de la ville de Raqqa, principal bastion du groupe djihadiste État islamique en Syrie, a indiqué aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Appuyé par l'aviation de la coalition internationale menée par les États-Unis, les FDL se sont emparés entièrement des quartiers d'Al-Sena'a et de Meshkleb dans l'est de la ville et de ceux d'Al-Rumayniya et de Sabaya dans l'ouest. En Irak voisin, la coalition soutient aussi au sol un assaut de grande envergure pour la reconquête de Mossoul, dernier grand fief urbain de l'État islamique dans ce pays. Il est 7h07 à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et ici aux États-Unis, Donald Trump reçoit aujourd'hui le premier ministre indien Narendra Modi pour un premier face-à-face attendu avec la volonté affichée de tisser des liens personnels en dépit des divergences réelles de l'immigration au climat. Après une rencontre dans le bureau ovale en milieu d'après-midi, les deux hommes partageront un dîner à la Maison-Blanche. Si des déclarations sont annoncées, aucune conférence n'est en revanche prévue. Le nouveau président sud-coréen favorable au dialogue avec le Nord se rend à Washington cette semaine pour discuter avec son homologue américain plus belliciste avec pour toile de fond l'accélération par Pyongyang de ses programmes balistiques au mépris des sanctions. Aux yeux du chef du Pentagone, Jim Mattis, le Nord est la menace la plus urgente et la plus dangereuse et Donald Trump a fait de l'arrêt des programmes nord-coréens l'une de ses priorités durant sa campagne électorale. Le nouveau chef de l'État sud-coréen Moon Jae-in, issu du centre-gauche, s'était dit disposé à aller à Pyongyang avant Washington, mais les États-Unis sont finalement la première étape à l'étranger depuis sa prestation de serment le mois dernier. Le prix Nobel chinois Liu Xiaobo a été libéré de prison après avoir été diagnostiqué le mois dernier d'un cancer du foie en phase terminale, selon son avocat. Ancien enseignant intellectuel et dissident purgeait depuis 2009 une peine de 11 ans de réclusion pour subversion après avoir co-rédigé un texte prônant la démocratie en Chine, la charte 08, et il lui restait donc encore 3 ans à passer derrière les barreaux. Et je l'ai dit, attendu aujourd'hui à Washington, le premier ministre indien Narendra Modi pour un premier face-à-face avec le président Donald Trump avec la volonté affichée de tisser des liens personnels en dépit des divergences. Merci de nous avoir suivis. Fin de ce journal. Le prochain dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.